Avec nous pour en parler, Alexandra Gonzalez du service police-justice de BFM TV, Jérôme Poirot, consultant BFM TV, ancien adjoint à la Coordination nationale du renseignement. Merci d'être avec nous ce matin. Nous rejoindrons dans un instant Anne Lorbanse, l'envoyé spécial de BFM TV à Kiev, et Paul Gogo, le correspondant de BFM TV à Moscou. Paul, première question pour vous. Hier soir, donc, les quatre terroristes présumés de l'attentat de vendredi soir ont été inculpés, ont été placés en détention provisoire après avoir comparu devant un tribunal de Moscou. Et ce qui frappe, c'est que les autorités russes n'ont toujours pas évoqué hier soir l'implication de l'État islamique et continuent d'imposer un scénario impliquant l'Ukraine, en fait.
Oui, exactement. Vladimir Poutine s'est exprimé une fois. Il a finalement insinué, même plus qu'insinué, assez clairement que selon lui, l'Ukraine avait une responsabilité dans cet attentat. Et depuis, on n'a pas entendu parler de nouveaux arguments, de nouveaux faits qui pourraient venir étayer cette thèse. Les télévisions d'État, les médias sur les chaînes Telegram, par contre, elles jouent cette ligne au maximum en essayant de créer, de trouver le plus de liens possible entre ces terroristes et l'Ukraine. Et puis évidemment, tout ça fonctionne un petit peu dans la société russe. Hier, j'étais devant le Crocus, parce que hier c'était une journée de deuil à Moscou. Il y avait des milliers de personnes qui sont venues rendre hommage aux victimes de cet attentat. Et devant le Crocus, eh bien, il y avait des gens qui adhéraient à cette thèse d'une responsabilité de l'Ukraine, tout simplement parce que ici à Moscou, que ce soit les Russes ou même nous, journalistes, ça fait plus de deux ans que cette guerre en Ukraine fait partie de notre quotidien. On en entend parler matin, midi et soir dans les médias. Et quand un événement dramatique apparaît de cette là, et bien psychologiquement, tout le monde a du mal à se figurer que ça puisse être une menace différente de celle de l'Ukraine.
Que l'attaque a été revendiquée par l'État islamique, et très précisément une branche de l'État islamique qui s'appelle l'État islamique au Khorasan. Alors, c'est un groupe qu'on ne connaît pas très bien, dont on a assez peu entendu parler, sauf qu'il a déjà proféré des menaces contre la France. Quel est précisément ce groupe? Voilà la définition donnée par le spécialiste du terrorisme, Wassim Nasr.
Il y a plusieurs attentats qui ont été déjoués avec des ressortissants de ces mêmes des anciennes républiques soviétiques qui font partie, qui ont été en tout cas missionnés par cette branche de l'État islamique qui est basée en Afghanistan. Donc l'État islamique Khorasan. Khorasan, c'est cette région, le nom historique de cette région, qui comprend Afghanistan, Pakistan, une partie des pays des anciennes républiques soviétiques et une partie de l'Iran. Donc c'est cette branche-là qui a aujourd'hui les capacités de missionner des gens pour faire des attentats en Europe, en Russie, mais pas que. Le dernier grand attentat en Iran, c'était eux aussi.
Donc cette revendication, Alexandra, fait le lien entre Moscou et Paris,
en fait. Oui. Et projet d'attentat déjoué, mais pas que. Souvenez-vous de l'attaque de Bir Hakeim. L'assaillant, qui était un jeune franco-iranien de 26 ans, s'était revendiqué comme étant membre de l'État islamique au Khorasan.
Et voilà ce que disait à l'époque le juge antiterroriste Jean-François Ricard.
Il se présentait comme étant Abu Tala al-Khorasani, ce qui constitue une référence à l'organisation terroriste État islamique agissant actuellement à partir de l'Afghanistan.
Et à partir de là, donc, le niveau d'alerte attentat est rehaussé en France. Mais les menaces sont étayées, réelles, de la part de ce groupe ?
Oui, il y a des menaces réelles. C'est pour ça que maintenant qu'il vient de passer à l'acte à Moscou, il y a un risque d'émulation, d'activation sur les réseaux sociaux. On sait que l'État islamique et les membres de l'État islamique vont commenter ce qui vient de se passer. Tout ça peut générer des effets d'entraînement, non pas d'une menace projetée, c'est-à-dire envoyer des personnes qui viendraient en France commettre un attentat, mais générer une menace endogène, que quelqu'un sur le sol français, en imitation de ce qui s'est passé, passe à l'acte également.
Via la propagande, notamment par Telegram, parce que, Jérôme, c'est le média, le canal par lequel communique cette branche afghane de l'État islamique.
Oui, c'est le grand changement qui est intervenu ces dernières années en matière de menaces terroristes. C'est-à-dire qu'on a connu l'époque où il y avait des commandos, soit qui étaient préparés sur le sol national, soit qui étaient entraînés à l'extérieur, en Afghanistan, en Algérie, il y a plus longtemps, ou en Irak. Là, maintenant, depuis plusieurs années, l'État islamique a donné pour consigne partout dans le monde à ses combattants d'agir avec les moyens du bord. Un couteau, un marteau, un véhicule. Et on a vu beaucoup d'attentats qui ont été commis en France ou chez nos voisins, ce qu'on appelle des attentats low cost, c'est-à-dire avec les moyens du bord. Une ou deux personnes qui font une, deux, trois ou quelques victimes, mais pas des attentats de masse avec des centaines de victimes comme on l'a vu au Bataclan ou comme on l'a vu
avec un impact évidemment sur les opinions très fort. Donc ça veut dire que ces gens-là sont très difficilement détectables.
Alors, ils sont détectables, mais dans cette masse, il peut y avoir, on l'a vu, vous faisiez référence à l'attentat du 2 décembre dernier à Bir Hakeim.
À Paris.
Alors, même si c'était un terroriste qui avait déjà été condamné, qui était connu, manifestement, il s'est levé un matin en se disant « je vais commettre un attentat aujourd'hui ». Ça, c'est quasi imparable. Et puis, il y a tous les jours de nouveaux apprentis terroristes qui sont en train de préparer quelque chose.
Revenons à cette cellule, l'État islamique au Khorasan. Quelle est la caractéristique de ce groupe en termes d'implantation, en termes de nombre, en termes d'objectifs?
Alors, ça a été dit tout à l'heure, leur sanctuaire, c'est l'Afghanistan. Ils sont présents à peu près partout en Afghanistan. Ce qu'il faut avoir en tête, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, il y a une guerre civile toujours en Afghanistan, mais entre les talibans et puis l'État islamique du Khorasan. C'est une guerre civile et une guerre religieuse, puisqu'il y a un contentieux, en fait, de nature religieuse entre les deux groupes. Ça fait des centaines et des centaines de morts tous les ans. On en parle assez peu, mais ils sont, par ailleurs, comme toutes les branches de l'État islamique, d'une violence et d'une sauvagerie.
Ce sont les auteurs de l'attentat de l'aéroport de Kaboul, août 2021. Voilà, cette attaque avait fait 170 morts, 170 civils et 13 soldats américains.
Oui, oui, ils sont d'une violence et d'une détermination.
Et ils s'en prennent aux civils. Pour vous citer deux autres, alors on parle beaucoup de l'attentat de Kaboul, mais pour vous citer deux autres exemples d'attaques qui ont été perpétrées par cet État islamique au Khorasan, il y a par exemple en 2021 un attentat contre une école de filles à Kaboul, 85 morts. En 2020, une attaque dans une maternité, 25 morts dont des mères et des bébés. Voilà ce que fait l'État islamique au Khorasan sur le territoire afghan et qui est tourné aujourd'hui vers l'international.
Voilà. C'est la question que
j'ai posée à Jérôme. Notamment à cause de ces tensions avec les talibans en local.
Mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la branche la plus active à l'international de l'État islamique?
Parce que l'État islamique en Irak et en Syrie a été très largement démantelé par la coalition militaire internationale. Donc c'est le propre de ce djihadisme mondial que l'on connaît notamment en France depuis 1995. Vous savez, le GIA, c'est-à-dire ces islamistes algériens, c'est la même chose. En fait, ces mouvements-là évoluent, ont des sanctuaires ici ou là, changent de nom, GIA, Al-Qaïda, État islamique. Alors, il peut y avoir des divergences idéologiques entre eux, mais le projet, globalement, est toujours le même.
Ce que je ne comprends pas, Jérôme, c'est quel est l'objectif en s'attaquant à la Russie et à la France,
Mais ce sont leurs ennemis. Leur projet, c'est d'établir un califat mondial, c'est-à-dire soit de convertir les non-musulmans à l'islam, soit en gros de les égorger, ce qu'ils font très bien, vous l'avez rappelé, et ce qu'ils font en masse. Et la Russie avait déjà été attaquée, son ambassade à Kaboul avait subi un attentat au mois de septembre 2022.
Mathieu. Parce que la Russie avait participé à la répression des mouvements islamistes en Syrie, aux côtés de Bachar al-Assad.
Oui, bien sûr, c'est un des motifs. Après, ils n'ont pas besoin de chercher beaucoup de motifs pour s'attaquer aux non-musulmans. Mais là, effectivement, quand il y en a, ce sont des occasions supplémentaires de justifier leurs actes.
Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin dans ce 7 minutes pour comprendre.